Il arrivera juste à temps.
Madame, monsieur, je regrette. C'est une soirée de gala.
Mais nous venons d'Iquitos. Nous avons fait 2000 kilomètres sur l'Amazone. J'ai fini à la rame. Nous étions en panne.
Il a les mains en sang.
2 jours et 2 nuits à la rame pour voir le grand Caruso une fois dans ma vie.
Je regrette, mais
c'est Caruso qui viendra inaugurer mon opéra à Iquitos quand je le bâtirai. Ce sera le plus grand opéra de la forêt vierge. Je vous en prie, laissez-moi entrer, s'il vous plaît.
Oui, une soirée de gala ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de montagne, de danger, de documentaire, de voix off, de direction, de violon, de baguette et même de grizzly. Plateau rétrospectif avec Werner Herzog à l'occasion de la sortie de l'intégrale de ses films en coffret DVD et de la sortie inédite en salle de 2 documentaires liés par une certaine idée de la montagne et du danger. Lucille Como.
Retour sur le travail d'un cinéaste qui filme à toute épreuve dans l'idée d'atteindre par le film une certaine extase de la vérité.
19h30, la première chronique Vanity, Dan Boulet en partenariat avec le magazine Vanity Fair. Et le sujet de cette première chronique, ce sera
Nina Simone.
On restera en musique à 19h35, plateau baguette avec Emmanuel Krivine qui fête les 10 ans de sa chambre philharmonique, un projet de formation musicale démocratique sans hiérarchie entre chef et musicien. Manu Farine.
Retour sur le parcours d'un chef d'orchestre qui se définit comme un accoucheur et pour qui moins le chef aura de pouvoir, mieux la musique se portera.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Sfez que l'on ouvre avec le son du jour. Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour, mais il ne date pas d'hier.
Non, il date de 2011. Vous entendez l'orchestre de l'Opéra de Rome et le chœur de l'Opéra de Rome qui interprète Nabucco sous la direction de Riccardo Muti, qui à l'époque s'était inquiété des baisses du budget de la culture en Italie. L'avenir lui avait donné raison, puisque le mois dernier, l'orchestre de l'Opéra de Rome, annonçait que pour combler un déficit de plusieurs millions d'euros, il licenciait son chœur et son orchestre. Bonne nouvelle. Aujourd'hui, la nuit dernière, la direction de l'Opéra annonce qu'elle a conclu un accord qui évite ce licenciement collectif. Accord qui prévoit une réduction des primes et une augmentation de la productivité des musiciens et des choristes pour permettre des économies de 3 millions d'euros par an. Les syndicats se sont en outre engagés à ne mener aucune grève sur les termes de cet accord. Ils avaient beaucoup fait grève ces dernières années. Le surintendant de l'Opéra a saluer une grande victoire pour l'opéra, une grande prise de responsabilité de la part des syndicats.
Je pense qu'on en parlera avec Emmanuel Krivine dans quelques instants. Et tout de suite, on passe au dossier du jour. C'est en ce moment la 9e édition du festival Automne en Normandie. La 9e, mais aussi la dernière, puisque le festival consacré au spectacle vivant va fusionner l'année prochaine avec l'autre festival de la région, Terre de Parole, qui a lieu au printemps. Une fusion emblématique, bien sûr, des grands bouleversements que va déclencher la réforme territoriale.
Oui, alors la décision a beaucoup étonné et attristé. Elle date de juin dernier, puisque Automne en Normandie accueille chaque année un public plus nombreux et toujours plus jeunes. La qualité de la manifestation n'est absolument pas en jeu, tout le monde le reconnaît, y compris les élus. Mais comme bien des manifestations, Automne en Normandie vit grâce à des subventions croisées de plusieurs collectivités territoriales et en subit les conséquences. Mathieu Bardiot est le directeur par intérim du festival.
C'est toujours un peu triste, évidemment, de voir un festival qui fonctionne, qui a un public qui rajeunit, de voir un festival disparaître. Après, moi, j'ai tendance à prendre l'image du divorce, si vous voulez, comme un divorce, un peu. Un divorce, ça peut être vu comme la fin d'une histoire ou c'est le début d'une autre. Donc, si vous voulez, ça s'explique par le fait que, évidemment, il y a des réformes institutionnelles que vous n'ignorez pas qui sont en cours actuellement. La loi MAPTAM, entre autres, la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Et donc, il y a beaucoup d'incertitudes actuellement sur les politiques culturelles des collectivités territoriales qui seront forcément impactées par cette réforme.
Justement, le choix de fusionner Automne en Normandie avec Terre de Parole est une conséquence de la manière dont les collectivités anticipent cette réforme.
Oui, parce que juste ici, le festival était donc financé par la région Haute-Normandie, par le Conseil régional de Seine-Maritime et par le Conseil général de l'Eure. Et il y a une espèce de redistribution des cartes de ces collectivités à l'approche de cette réforme. La région va se concentrer sur ses grands projets, c'est-à-dire un nouveau centre d'art dramatique dirigé par David Bobet et de soutenir plus massivement l'Opéra de Rouen. Le Conseil général de la Seine-Maritime, en échange, a obtenu de se retirer de ses projets, mais il récupère l'entière responsabilité de supporter tout seul ce festival d'automne en Normandie. Système de vases communicants mené en toute intelligence, même si la Seine-Maritime, le petit département, n'a pas les moyens de faire aussi bien que quand il y avait la région, comme l'explique Pierre Bouhaud, directeur général adjoint du département de Seine-Maritime.
Je ne vous cacherai pas, vous le savez parfaitement bien, que l'ensemble des collectivités aujourd'hui sont impactées par des finances qui sont difficiles à maintenir à l'équilibre. Donc bien évidemment, passer de deux festivals à un autre, à un seul festival, nous obligera à ajuster ce budget pour proposer un festival, mais qui conservera un rayonnement international, citoyen, et dont l'exigence artistique devra être portée haut. C'est la raison pour laquelle, d'ici quelques semaines, nous rentrerons en phase de recrutement d'un nouveau directeur qui proposera un projet qui devra être à la hauteur des attentes que nous avons.
Le festival qui verra le jour en 2016, donc de cette fusion d'Autonomie-Normandie et de Terre de Parole, devra d'ailleurs convaincre encore les collectivités.
Et oui, parce qu'entre-temps, si tout va bien, les deux Normandies auront fusionné,
mais
la haute et la basse.
Mais ça va être un bordel incroyable.
Et le nouveau festival, même s'il a moins de moyens, devra convaincre ces collectivités d'investir. Chez lui, Mathieu Bradio, directeur par intérim du festival.
L'idée, véritablement, c'est qu'au printemps 2016, cette nouvelle manifestation qui verra le jour s'organise autour des écritures dans leur diversité. C'est-à-dire qu'elle lira aussi bien les écritures théâtrales que la littérature, que les écritures plastiques et les écritures chorégraphiques. L'idée même, nous sommes un festival régional, c'est d'arriver à passer l'année 2016 pour essayer de séduire avec le nouveau projet les élus bas-normands et essayer justement de faire en sorte que ce festival puisse devenir un festival à l'échelle de la future Grande Normandie.
Voilà, donc il y a 6 candidats en lice pour assurer la direction artistique de ce futur festival fusionné. La nomination aura lieu en 2015. On suivra l'affaire dans le Journal de la Culture.
Je vous sentais fatigué, Emmanuel Crivine, à l'annonce de toutes ces réformes de collectivité. Chef d'orchestre.
Je crois que tant que la culture sera un objet ou un hochet pour politique, on ne s'en sortira pas. Il faut que les politiques soient rampes, à genoux devant la culture.
D'accord,
et là, ça fonctionnera.
Oui, d'accord, très bien.
La culture n'est pas un hochet pour politique ou pour non-politique. C'est-à-dire, elle n'est jamais un hochet. Voilà, c'est tout.
Et sur l'Orchestre de Rome, une réaction sur l'Orchestre
de Rome. Ce qui est amusant, c'est qu'un syndicat italien promet de ne plus faire grève. Alors, je trouve ça absolument génial et je suis sûr que ça va plaire extrêmement à M. Herzog de voir qu'un syndicat italien a promis de ne plus faire grève, ça ferait un objet d'un film.
Et l'on passe au bref tout de suite, Zoé.
Et l'on ouvre avec le prix du Quai des Orfèvres 2015 attribué à Maryse Rivière pour son roman « Tromper la mort », prix remis par le chef de la police judiciaire de Paris, Bernard Petit. Ce livre raconte la traque d'un tueur en série, érudit et fin lettré, qui a agi par le passé à Paris, qui récidive en Irlande alors que les policiers français le croyaient mort.
Le 27e prix Goncourt des lycéens a été attribué mardi à Rennes à Charlotte de David Fuenkinos.
Et oui, après le Renaud 2, ce roman consacré à une artiste peintre juive allemande assassinée à Auschwitz a été choisi par les élèves des 57 lycées qui participaient. Parmi 15 autres ouvrages en compétition, Charlotte l'a emporté devant On ne voyait que du bonheur de Grégoire Delacour et devant L'amour et les forêts d'Éric Reinhardt.
Le numéro... Dites-donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont les mots? Pourquoi ils ne viennent pas? Le numéro 1 mondial de la musique en ligne Spotify va augmenter ses effectifs. D'un tiers. Ça y est, ils sont venus.
Il va passer de 1500 personnes à 2000. C'est ce qu'indique le suédois Spotify, précurseur, je le rappelle, dans le système de plateforme d'écoute en ligne, autrement dit le streaming, et qui cherche à croître face à la concurrence, notamment de plus en plus rude, de YouTube, qui a lancé début novembre un nouveau service payant de musique.
Et la dernière.
Bon, c'est une histoire mignonne de chapeaux, de poulets et d'enchères. Alors, vous le savez peut-être, plusieurs effets de Napoléon le Grand étaient en vente ce week-end. C'était des objets issus de la collection de la famille de Monaco. Et l'un des chapeaux de l'empereur est parti pour 1,8 million d'euros. Qui se l'est offert? C'est
le roi
du poulet coréen. Oui, je peux comprendre. Alors, c'est un homme qui s'appelle King Hong Kook, qui a donc dit « Je peux comprendre et me sentir très proche de beaucoup de l'épisode de la vie de notre ami Napoléon. J'ai toujours pensé qu'il y avait certaines similarités entre lui et moi en ce qui concerne la façon de penser, de prendre des décisions, bien que je ne sois pas aussi grand que Napoléon, ce qui veut dire qu'il est quand même assez petit. » Kim Hong Kook, il a commencé sa carrière d'adolescent avec seulement quelques poulets et il a peu à peu diversifié son activité de volaille. Il s'est lancé dans les secteurs de la transformation du porc, de la volaille, de la nourriture, de la médicaments pour animaux, etc. Il indique qu'il a acheté ce chapeau pour faire souffler un vent de modernité à son entreprise. On espère que ça marchera.
D'autres réactions à ce que l'on vient d'entendre, Emmanuel Krivin ? Non, je crois que ça suffit. Werner Herzog, des réactions à ce que l'on vient d'entendre ?
Nein, nicht wirklich, weil ich zu wenig Französisch verstehe.
Pas vraiment, parce que je n'ai peut-être pas tout compris.
Peut-être juste une question par rapport à l'augmentation qu'on vient d'apprendre du budget de la culture en Allemagne, plus 4%. C'est une bonne nouvelle. Comment vous regardez cela ?
Das betrifft mich nicht direkt, aber es ist
natürlich pas directement, mais je suis ravi d'entendre que l'Allemagne augmente le budget de la culture.
Das Herz eines Landes schlägt.
C'est quand même le cœur d'un pays qui bat.
Und das ist eigentlich nur eine Konsequenz einer sehr, sehr langen Entwicklung.
Et c'est vrai que c'est la conséquence d'un développement qui a pris très longtemps, qui a cessé enfin avec la fin de la barbarie et du régime nazi, et que l'Allemagne est retournée à son statut de nation culturelle, trouvant sa place au sein d'un cœur de nation normale.
Aujourd'hui, je
trouve très bien que l'argent soit dépensé, bien sûr, pour la culture plutôt que pour les armées.
Le rendez-vous.
The hours passed and the waiting began. The silence grew ever deeper and the volcano La Soufrière shrouded itself in clouds. Nobody knew whether the eruption would happen in the next few minutes or the next day. And because one could not see a thing, the fear became anonymous.
Plateau Ascension avec vous, Werner Herzog, cinéaste dont on vient d'entendre la voix, un parcours qui commence à la fin des années 60 et sur lequel vous revenez dans une rétrospective de vos films à l'Université de Strasbourg, au cinéma Grand Action à Paris, et puis des films qui vont ressortir en coffret DVD sous le label Potemkin le 3 décembre prochain. Et le même jour, ce sera la sortie en salle de deux documentaires réunis sous le titre Les Ascensions de Werner Herzog. Lucille Comeau.
Il y a La Soufrière donc de 77 et Gachorbrum, La Montagne Lumineuse, un film de 84. Alors dans le premier, vous êtes en Guadeloupe, dans une ville déserte, alors qu'un volcan est sur le point d'entrer en éruption, et vous allez à la rencontre d'un puis deux hommes restés sur les flancs de la montagne.
Et dans Gazerbrum, vous suivez le grand alpiniste Reinhold Messner alors qu'il s'apprête à gravir deux sommets de l'Himalaya sans camp fixe, sans radio ni oxygène, donc bien sûr au péril de sa vie. Un mot peut-être sur cet alpiniste qui a révolutionné l'alpinisme en abandonnant ce qu'on appelle la tactique du siège. J'avoue que je ne suis pas très au fait des techniques d'alpiniste, mais selon lui, c'était une technique qui était plutôt irrespectueuse de la nature. Il y avait donc une manière très particulière d'escalader les sommets. C'est pour cette raison que vous avez tenté ce documentaire, plus précisément, en
1984.
Il faut placer tout cela dans un contexte. Au départ, je voulais tourner un long métrage avec beaucoup de comédiens sur le K2, donc qui se trouve tout près de Gachorbrum et qui est le deuxième sommet le plus haut du monde. C'est quelque chose d'extrême dans sa beauté, donc évidemment très difficile. Et en fait, ça devait être un essai pour un long métrage. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que ce long métrage ne se ferait jamais, que c'était beaucoup trop dangereux. Je suis quand même suffisamment futé pour dire, même à la dernière minute, on annule tout. C'est ce qui me plaisait d'ailleurs chez Messner, qui a quand même trois fois essayé d'escalader une montagne qui faisait plus de 8000 mètres. Et la troisième fois, il n'avait toujours pas atteint le sommet. Parce qu'à une centaine de mètres avant le sommet, il faisait demi-tour. Il avait quand même ce courage de se dire « c'est beaucoup trop dangereux, je ne vais pas, je renonce ». Et c'est la quatrième fois qu'il a réussi à escalader donc ce sommet.
Et
ça, c'est vraiment une attitude très surprenante.
En
même temps,
vous dites
qu'en effet, il n'était pas tellement accompagné de Sherpas, il avait décidé d'escalader, de grimper sans oxygène. On aurait peut-être dû laisser les montagnes tranquilles.
Petrarca,
qui pour le premier a escaladé une montagne juste pour le fait d'escalader une montagne, le décrit dans une lettre qu'il a écrite en latin et il dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il n'aurait pas dû le faire.
Et
lorsque l'on est dans ce camp de base du Mont Everest, on se rend compte qu'en fait c'est une poubelle. Les restes de la civilisation sont accumulés là. Moi j'ai vu une centaine d'escaladeurs qui, dans une chaîne ininterrompue, comme ça, montent le long de cette montagne pour pouvoir arriver au sommet. C'est devenu quelque chose de totalement insupportable. Il est insupportable de voir que les montagnes perdent leur honneur.
Lucille Comeau.
Donc dans les deux documentaires, vous filmez des personnages en danger. Messner, qui parle ouvertement de la mort tout au long du documentaire qu'il menace et qui a déjà emporté d'ailleurs son frère alpiniste comme lui. Et puis ces deux hommes sur les flancs du volcan La Soufrière qui est en éruption. Et vous-même, puisque vous précisez que vous aviez vraiment eu peur pendant le tournage, peur d'être étouffé, voire englouti sous la lave. Mais c'était important pour vous de faire ce film. Pourquoi c'était si important pour vous ?
Je souhaitais rentrer dans l'âme humaine. Que se passe-t-il avec quelqu'un qui est au bord d'un volcan qui va s'ouvrir et qui refuse d'être évacué? Sans doute avait-il, ce monsieur, un autre rapport avec la mort. C'est ça qui m'a intéressé. Bien sûr qu'il était en danger. Mais l'équipe du film, du tournage, était confrontée au même danger. On ne savait absolument pas si l'éruption allait se faire dans 20 secondes, dans 4 heures, dans 4 semaines. Évidemment, est très agréable, bien sûr, c'est qu'il n'est pas entré en éruption, sinon je ne serais pas avec vous.
Et s'il était entré en éruption, qu'est-ce que vous auriez fait de la pellicule ? J'ai pu lire que vous l'auriez enterré.
Nous savions, de par la structure géologique, qu'il exploserait, un petit peu comme Mountain Tenens aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a des forces cinétiques qui sont libérées, qui ressemblent à plusieurs bombes d'Hiroshima, par exemple.
Un
des caméramans, un Américain, m'a dit, enfin m'a demandé, on fait quoi si ça explose pendant le tournage ?
Et
je lui ai dit de manière assez laconique, eh bien, Edward, nous partirons en l'air. Voilà, on montera dans les airs.
Un cinéaste en apesanteur. Emmanuel Krivine, peut-être un commentaire ou une question, vous qui connaissez, j'imagine, le cinéma, peut-être pas forcément le cinéma documentaire de Werner Herzog, mais en tout cas son cinéma de fiction.
Ce qui m'intéresse, ce qui me fascine, c'est que j'ai l'impression, bien que je ne sois pas très calé en cinéma, je connais quelques films de Herzog qui sont des merveilles, j'ai l'impression qu'il me rappelle comme ça. D'abord physiquement Wolfgang Goethe, et puis il me rappelle le chevalier de Siebente Siegel, le septième sceau, Bergman, qui joue aux échecs avec la mort. Et j'ai l'impression que lui transforme ça en jouer aux échecs avec la vie, quoi. C'est-à-dire, il joue aux échecs avec la mort, mais c'est une façon de vivre. Et je trouve ça très rare de nos jours, où de nos jours, les gens sont toujours garantis. Tout est garanti. Je veux dire, rien que pour refaire pipi, on a une assurance vie. Donc, c'est le contraire, cette démarche. Et il n'y en a plus beaucoup comme ce monsieur. Il y en a peut-être il est le seul, et bravo. Voilà.
Je vais rebondir. Oui, Werner Herzog.
Je suis une personne professionnelle. Je dois rendre un film.
Et
pour cette raison, en fait, il n'y a pas vraiment de jeu d'échecs avec la mort. Il faut tourner, il faut faire vite. Et ensuite, il faut s'éloigner le plus rapidement possible de la montagne menaçante.
professionnellen Vollzug gibt.
Et là, on ne peut être que professionnel. Oui, il n'y a même pas de pensée.
La différence, c'est qu'il voit le professionnel comme un sacerdoce, et c'est dans ce sacerdoce qu'il est plus qu'un professionnel. Enfin, pour moi.
Okay, ja.
Sacerdoto.
Si, si. Sacerdote, ja. Ja, seltsam. Ja, na, wir müssen jetzt nicht unbedingt den Beruf von Priestern oder...
Oui, il ne va pas falloir absolument parler maintenant des évêques ou des prêtres. Pas forcément. En tout cas, pas dans ce contexte-là. Faire un film, ça peut être quelque chose de très dangereux. Ça s'est produit dans ma vie. Mais la loterie à l'aveugle, avec la mort... Peut-être moins. Vous savez, tourner un film, c'est un enchaînement de plusieurs activités. Si vous venez sur un lieu de tournage, me voir, vous n'allez absolument rien reconnaître. Il n'y a que des petites choses qui sont juxtaposées ou posées les unes à côté des autres.
Votre premier long-métrage sort en 1968, Werner Herzog, c'est « Signe de vie, ours d'argent à Berlin ». C'est l'histoire d'un soldat allemand qui va devenir fou après la guerre sur une île grecque. Comment ce sujet s'était-il imposé pour un premier film? Quand vous prenez la caméra, enfin, ce n'est pas la première fois, mais en tout cas pour votre premier long-métrage, qu'est-ce que vous vouliez dire par ce sujet en 68?
Ce qui est amusant avec ce film, c'est qu'il commence avec un plan fixe. Lorsque j'avais 15-16 ans, j'étais partie sur les traces de mon grand-père, qui était archéologue en Grèce. Et sur l'île de Crète, je suis partie à pied. Et tout à coup, j'ai atteint un plateau et j'ai regardé vers le bas. En étant sur ce plateau, je me suis dit, je suis devenue cinglée. Il y avait des dizaines de centaines de moulins qui tournaient, comme, vous savez, comme si tout à coup, dans un champ, toutes les fleurs étaient devenues folles et tournaient sur elles-mêmes avec leurs pétales. Je me suis dit, soit c'est le paysage qui est fou, soit c'est moi qui suis cinglée.
Et
je savais que ce serait cette image-là qui, un jour, serait dans un film dont je ne connaissais pas encore l'histoire.
Alors justement, puisque vous parlez de cette image qui a pu déclencher plus tard votre cinéma, vous, quel est le cinéma qui vous a fondé, Werner Herzog? Quels sont vos premiers souvenirs de cinéma?
Das Seltsame ist, ich bin ja in einem sehr entlegenen Gebirgsdorf ausgewachsen.
Vous savez, j'ai grandi dans un tout petit village en Bavière. Il n'y avait pas d'eau courante, il y avait à peine de l'électricité.
Kein Telefon oder Radio.
Pas de téléphone, il n'y avait pas de radio.
Ich wusste nicht, dass Kino existiert.
Et je ne savais pas que le cinéma existait.
Bis ich elf war.
Avant l'âge de 11 ans.
Und das erst später, als ich dann in München in der Schule war,
ensuite, quand j'ai été scolarisé à Munich, j'ai compris ce que c'était, je suis allé voir des films.
Souvenir, mon premier souvenir,
vraiment,
c'est un projectionniste der mit einem Auto
en fait, c'était
in die Schule kam,
un projectionniste qui venait à l'école et qui nous avait montré des films documentaires, mais qui ne m'avaient pas du tout impressionné, tellement ils étaient mauvais.
Einer war über Eskimos, die ein Iglu bauen und
die
konnten
un.
Nicht richtig mit Schnee
Ils nous montraient
umgehen.
Comment das des Eskimos faisaient un igloo, mais en fait, ils ne savaient pas du tout se servir de la neige. En fait, c'était des figurants qui avaient été payés.
C'était peut-être mauvais, mais en tout cas, ça a permis quelque chose plus tard dans votre cinéma, Lucille Comeau.
Oui, je sais qu'il y a un film très important pour vous, peut-être en parlant de Banquise, qui n'est pas sorti au cinéma, qui a mis du temps à sortir, je crois, en DVD en France. C'est le documentaire Encounters at the End of the World sur l'Antarctique. Un documentaire très animalier, comme vous en avez fait d'ailleurs d'autres. En quoi est-il si important pour vous, ce film-là?
Ich glaube, der Film ist genauso wichtig für mich wie alle anderen.
Ce film est tout aussi important que les autres. Je ne fais absolument pas de différence entre les enfants que j'ai pu avoir. Je les aime tous. Mais je pense que ce film regroupe plusieurs thèmes qui me touchent.
Der Film war merkwürdig zu machen, weil ich keine Vorbereitung haben
konnte. C'était un petit peu bizarre de faire ce film parce que je n'avais pas du tout de préparation. C'est à partir dans l'Antarctique, ça coûte très très cher. C'est très difficile.
Et
c'est vrai que j'ai été posé par un avion comme ça sur la glace et puis 6 semaines plus tard, cet avion est revenu pour récupérer un film.
Was da geholfen hat, war der Kamera. caméraman sagte mir, wie
können wir Idee, quand même, c'est que le caméraman m'a dit, mais comment voulez-vous qu'on explique à toute une population ce qui se passe là? Et j'ai dit, non, on ne va rien expliquer du tout. On va faire comme dans Georgica. On va simplement nommer la grandeur de ce pays et des gens.
Und das tut Vergil in seinem großen Gedicht,
Virgil, bien sûr, über dans son poème, auch, très long, où il nomme la grandeur des arbres, des abeilles,
auch den Schrecken, der die
et aussi l'épouvante que peut devenir ce paysage lorsque n'importe quelle peste se déclenche.
Virgil hat uns dabei geholfen.
Voilà, et c'est Virgil qui nous a beaucoup aidés.
Alors, comme tous les jours, on demande à nos invités d'apporter un son qui les a marqués. Et voici ce que vous avez choisi, Werner Herzog. Identification de ce son et la raison pour laquelle vous l'avez choisi, Werner Herzog.
Ich wollte darauf hinweisen, dass ich sehr intensiv in einer ganzen Reihe von Filmen mit Ernst Reisinger gearbeitet habe.
Je voulais vous indiquer l'importance d'un compositeur néerlandais et qui est également joueur de violoncelle, comme on l'entend, et qui a beaucoup d'importance dans ma vie. Ici, nous avons des voix qui viennent de Sardaigne, qui ont l'air comme ça préhistorique quand on les écoute. Ce qui est intéressant, c'est que cette musique a été d'abord enregistrée après un film s'est fait, le diamant blanc, The White Diamond. La musique a existé
avant
le film.
Und ich wollte darauf hinweisen, dass Musik in meinen Filmen eine ganz außerordentliche Rolle spielt.
Je voulais vous dire que la musique joue un rôle prépondérant dans mes films, peut-être plus que chez d'autres collègues que j'ai eu l'occasion de rencontrer.
Vous-même, vous êtes musicien ? Parce qu'on vous voit, par exemple, diriger en studio les musiciens pour le film Grizzly Man.
Ich wäre gern Musiker, ich würde 10 Jahre meines Lebens geben, wenn ich Cello spielen könnte.
Je donnerais 10 ans de ma vie si je savais jouer du violoncelle. J'aimerais bien surtout jouer comme je respire. Mais ça n'a pas été possible. J'ai vécu une tragédie scolaire. Il a fallu un jour, à l'âge de 13 ans, que je chante devant toute la classe. Et c'était vraiment un moment où je me comportais comme un enfant autiste qui s'exclut de la musique. Et lorsque mon école, enfin la scolarité s'est terminée, lorsque j'ai eu 18 ans, j'ai développé une faim illimitée pour la musique. J'ai découvert Heinrich Schütz, Monteverdi, Gesualdo, Rolando Di Lasso, et puis beaucoup plus tard encore, Beethoven, Avo Pärt, et puis vraiment tout à la fin, Wagner.
Emmanuel Krivine, un commentaire ? Vous, chef d'orchestre, musicien, violoniste ?
Non, on sent évidemment qui. Werner Herzog aime la musique, et ce qui m'a intéressé dans son choix tout à l'heure, c'est que c'est... Je me demandais pourquoi c'est tonal, parce que c'est une G-dur, un sol majeur, ce qu'on entend. Et je me disais, c'est tonal. Tiens, c'est curieux. Alors, c'est de quelle époque ? J'ai pas trouvé son explication. C'est génial, ce truc.
Le rendez-vous. La chronique.
Werner Herzog et Emmanuel Krivine, on vous retrouve dans quelques instants. Mais tout de suite, c'est la première chronique Vanity d'Anne Boulay, la rédactrice en chef de Vanity Fair, avec à son programme aujourd'hui une voix, Nina Simone.
De la musique et du cinéma. Disparue à Paris il y a 11 ans, Nina Simone fait l'objet d'un album de reprises remarqué. Et d'ailleurs, un certain nombre de ses interprètes sont venus donner ici même, et pas plus tard que le week-end dernier, un concert pour célébrer la rouverture de la Maison de la Radio. Et sa fille Lisa Simone vient de son côté de sortir un premier album. Alors pourquoi elle et pourquoi maintenant ? D'abord, il a fallu se désintoxiquer.
C'est moi qui vous ai contaminé.
Voilà, c'est très contagieux. Il a fallu se désintoxiquer de My Baby Don't Care, qui a quand même servi de musique d'attente à trop de services consommateurs qu'on ne finirait jamais par avoir. Et puis il y a aussi eu la pénible version La scie lacrymale de Jacques Brel, Ne me quitte pas. Et voilà comment on passe à côté d'un génie. Il faut dire aussi que Nina Simone était de son vivant tellement trop qu'il a peut-être fallu une bonne décennie pour digérer ce trop de trop. Tête crépue, nez épaté, peau noire, elle est trop black pour les blancs, qui préfèrent les blacks quand elles ont l'air de blanches, et trop radicale pour nombre de blacks, que celle qui, dans les années 60, puise sa force dans le mouvement des droits civiques, appelle sans relâche, mais en vain, à l'insurrection. Trop écorchée vive, capable de transformer n'importe quel titre en chant de protestation, de faire passer des messages de fierté aux enfants noirs entre les marionnettes de Un rue Sésame, mais aussi de s'approprier la génie des pirates de Brecht et Kurzweil, ou de chanter en hébreu. Trop en avance sur son temps, enfin, elle a été dans l'indifférence générale la courroie de transmission avec le rap. Bien avant que Jay-Z fasse de sa chanson Young, Gifted and Black un tube, elle copinait avec les Last Poets, les Godfathers du rap. Mais un des moments les plus touchants de la fin de sa vie, c'est quand en 98, pour les 80 ans de Mandela à Johannesburg, elle se trouve à côté de son artiste préféré, Michael Jackson, à qui, enfant, elle avait dit, en pure perte donc, « Ne les laisse pas te changer, tu es noir et tu es beau ».
Il ne l'a pas écouté.
Non. Les deux faces de l'Amérique noire, qui est toujours trop noire ou trop blanche, confère Obama. Ironie du sort, c'est une histoire de couleur de peau qu'il a fait aujourd'hui redécouvrir aux États-Unis, pays dont le président cite Sinnerman dans le top 10 de ses chansons préférées. Après 15 ans d'atermoiement, un biopic consacré à la chanteuse a été tourné par la réalisatrice Cynthia Morte et montré en catimini à Cannes en mai dernier. Aucun journaliste n'a pu voir le film.
Pour quelle raison ?
Du vivant de Nina Simone, il avait été convenu que Whoopi Goldberg serait l'interprète idéale. Puis il a été question de Mary J. Blige. C'est finalement la très très blanche Zoé Saldana qui a hérité du rôle. Et c'est peu dire que c'est mal passé. En effet, l'actrice qu'on a surtout vue bleue dans Avatar, est d'origine dominicaine et a dû porter un faux nez, une perruque afro et du fond de teint foncé pour rejouer la vie de la princesse de la soul. Mais après tout, pourquoi pas ? Attendons de voir pour juger. En attendant, réécoutons Four Negro Women, hymne à toutes les peaux noires écrit il y a 50 ans et dont la rage lumineuse est un baume en ces temps obscurs. Pardon pour toutes les... C'était ma première.
C'était votre première. Merci, ah ouais. Anne Boulay. Merci. Plateau répertoire avec vous, Emmanuel Krivine, chef d'orchestre. Vous avez notamment dirigé l'Orchestre Philharmonique de Radio France comme chef invité permanent, l'Orchestre National de Lyon, collaboré à la Philharmonie de Berlin, le London Symphony Orchestra, les orchestres de Boston et de Cleveland. Et vous êtes aujourd'hui directeur musical de l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg et chef de la Chambre Philharmonique. C'est un ensemble qui ouvre sa saison le 28 novembre à la Cité de la Musique à Paris avec le dernier concerto pour piano de Beethoven et la Symphonie numéro 5 de Mendelssohn, qu'on écoute derrière nous. Qu'est-ce que dit ce programme allemand de ce que défend cet ensemble qui fête ses 10 ans cette année ?
Ce sont des musiciens sur instruments d'époque, period instruments, qui ont voulu, qui ont pointé tout ce qui les dérangeait dans ce qu'on appelle l'institutionnel et comment monter autre chose qu'une autre façon de faire. Donc, pas d'audition, mais cooptation.
Entre les musiciens.
Multinationalité. On a le même cachet, le même argent, eux et moi, la même chose.
Le chef d'orchestre mis au même niveau que les musiciens.
Et peu de projets de manière à ce que la routine ne puisse pas s'installer. Donc, 6 projets annuels. Ça ne veut pas dire... Ce n'est pas un système manichéen. Il ne s'agit pas de dire les instruments d'époque contre le moderne ou l'institutionnel contre la nana, tout ça, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est une autre façon de faire de la musique, ce qui ne les empêche pas de jouer également sur instruments modernes ou dans des ensembles contemporains. Ou de, bref, alors c'est très intéressant parce que c'est toujours l'époque du compositeur. Les instruments sont de l'époque du compositeur. C'est ainsi qu'on se rend compte, quand on voit un piano au corps, par exemple, ou un forte, comment on règle la balance des cordes, cordes, trompettes, timbales, par exemple chez Beethoven, Mendelssohn, etc. Avec l'instrument d'époque, il n'y a plus aucun problème de balance. Tout s'équilibre. Pourquoi, par exemple, Mozart mettait, il écrit à son père, hier soir c'était amusant, j'avais 40 fagottes. Bon, pourquoi? Et pourquoi Berlioz met 4 fagottes et pas 2 fagottes, basson, je veux dire. Bref, l'instrument d'époque permet de voir ce que le compositeur voulait entendre. Donc c'est pas, si tu veux, historique, c'est pas non plus du pharisaïsme, c'est-à-dire j'ai raison, tu as tort, c'est de la curiosité, de la... voilà, c'est tout.
Qu'est-ce que ça veut dire, chambre philharmonique?
Chambre philharmonique, ça existait au XVIIIe siècle. Si tu veux, philharmonique qui aime l'harmonie.
Ouais.
Chambre. Alors, ça m'intéresse dans chambre philharmonique parce que on est dans une civilisation tellement curieuse qu'explique très bien Adorno ou des gens comme Hannah Arendt. Ils expliquent très bien que l'orchestre grossit comme par hasard au moment des nationalismes, des totalitarismes, etc. Tout ça, c'est lié, si tu veux, à la projection du moi, quoi, comment l'ego gonfle. Bon, ça produit de très belles musiques. Mais pourquoi ça devient institutionnel et donc avec un système paramilitaire presque? Et ce système paramilitaire influence l'interprétation. Voilà le problème. Le compositeur n'y est pour rien. C'est le système qui fait ça. Donc, dès qu'un musicien est un peu subtil en musique, on dit « Oh, c'est un chambriste ». C'est une connerie monumentale. Parce que, par exemple, le Boston Symphony, il joue comme un quatuor. Ou le Berlin Phil, ou le même LSO. Il joue comme un quatuor, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire de nombre. L'histoire des 12 apôtres, les 12 apôtres qui dorment, c'est intéressant. Mais s'ils avaient écouté de la musique attentivement, ils pouvaient être 200 apôtres et ils ne dormaient pas.
Manu Farine.
Ce sont les musiciens, je crois, qui sont venus vous chercher en 2004 pour la formation justement de cette chambre philharmonique. Des musiciens qui jouaient donc sur instruments anciens et qui avaient cette idée de formation en tête. Vous avez été un peu dur à convaincre. Je crois que ça s'est joué dans un studio juste à côté d'ici, hein, au 106, à la Maison de la Radio, lors d'une répétition. Qu'est-ce qui vous éloignait à ce moment-là, disons plus généralement, du baroque, en tout cas du répertoire qui était défendu par ces musiciens à l'époque?
J'étais conservateur et j'étais réactionnaire. On appellerait ça réactionnaire, j'aime pas trop, plutôt conservateur. Oui, par idiotie, c'est tout. Et je vis avec une femme très intéressante qui s'occupe de beaucoup de choses et qui jouait de la viole de gambe, qui jouait dans plein de formations baroques, qui écoutait beaucoup des musiques qu'a cité Werner Herzog tout à l'heure, qui connaît bien toutes les œuvres de Purcell, tout ça, les sonates du Rosaire et toutes ces choses-là. Et donc j'étais imprégné d'une autre culture que... les concours internationaux et les, bref, la performance au sens technologique de la musique, c'est-à-dire vite, fort, brillant et une salle pleine. Je suis sorti de ça, j'ai écouté beaucoup d'autres choses, j'ai rencontré, parce que moi je suis élève de Carl Böhm, donc j'ai rencontré un autre monde grâce à un autre monde. Et ce qui m'a intéressé, c'est ce qu'on recherche, c'est une recherche actuelle d'ailleurs, quand vous êtes dans le monde du vin. Vous recherchez typicité, traçabilité, biologique, etc. Bon, c'est une réaction qui se passe dans le monde entier, ça. Quelquefois, c'est un peu folklorique. Ce qui est intéressant en musique, c'est que vous revenez à la base du langage, puisque c'est l'instrument qui fait le phrasé. L'instrument fait le phrasé. Mmh. Par exemple, un orchestre moderne va vous faire ta-da-di, clic. Pourquoi? Parce que l'instrument... il est naturellement dans le tenuto, parce qu'il est assimilé à la technologie moderne qui vient de, si tu veux, du fameux... Enfin, c'est Prométhéen, c'est-à-dire je tiens la matière. Hein, tout ça, c'est érectile. Je tiens ma matière. Donc, ça produit ça et ça se confond avec le progrès technique. Or, un instrument de ce temps, chez Beethoven, le type ne peut pas tenir le son. Donc ça va faire tam, bam, bam, et ça va lâcher naturellement. Donc ce naturel, c'est ce qu'on cherche dans le phrasé, et ce que c'est l'instrument, le produit, tout, voilà, compris.
Avant d'accepter la proposition des musiciens, il y avait eu une répétition de la 40e de Mozart au Studio 106, ici à la Maison de la Radio à l'époque. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là pour que vous changiez d'avis, Emmanuel Krivine?
Eh bien, j'étais là avec que des musiciens sur période instrument, sur instrument d'époque, qui connaissaient, qui avaient cette culture. Bon, c'est vrai que moi, je n'étais pas un chef de caserne. Hein. J'avais déjà fait des Mozart en enregistrement, etc. J'étais plutôt influencé par des gens comme Joseph Cripps, ce monde-là. Mon idole, c'était Fischer Dieskau. Donc, des gens qui connaissaient le phrasé. Mm-hmm. Même s'ils étaient dans un monde bourgeois en ce temps-là, ils étaient déjà dans un monde qui phrase. Il n'y avait pas besoin d'avoir une culture spéciale pour phraser. C'était naturel dans leur monde. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu ce message de vulnérabilité de l'instrument, ce qui est très intéressant, vulnérabilité au lieu de technologie, d'une culture du phrasé, d'un son qui est imparfait, et ce son imparfait par rapport à la notion de clean ou the pitch, enfin in the middle, absolument juste, in tune, tout ça, on est tombé dans une chose qui est plus naturelle, artisanale. Et ça m'a intéressé parce que moi-même qui avais fait de longues années de psychanalyse et de ça, j'ai senti que la vulnérabilité est indispensable à l'art. Quoi. Ce monde qui fait des concours internationaux où on compare deux types qui jouent une chaconne de Bach, comment, qu'est-ce que tu veux comparer? Alors quelqu'un qui court, c'est plus ou moins ouais, 2 secondes. Il a 2 secondes de plus, 2 secondes de moins. Tu joues au tennis, mais une chaconne de Bach, qu'est-ce que tu compares? Donc on est dans un monde de fous maintenant. Et c'est pour ça que ce monde qui recherche l'artisanat, s'il évite le folklore et si ça tombe pas dans le pharisaïsme, je crois que ça sera intéressant. Je crois.
Werner Herzog, je sais que vous avez monté et dirigé plusieurs opéras, plusieurs Wagner, mais aussi du Verdi. Est-ce que le répertoire baroque, c'est quelque chose que vous auriez aimé travailler comme metteur en scène?
Ich muss gestehen, dass ich nie freiwillig sozusagen mich gemeldet habe, eine Oper zu inszenieren.
Ich wurde jamais présenté en premier pour faire des opéras et pour les mettre en scène. On est venu me chercher, mais j'avais cette compréhension.
On vient tous vous chercher, hein, c'est vraiment dingue.
Voilà, en fait, j'avais jamais vu d'opéra en tant que spectateur dans ma vie, mais j'avais cette compréhension, je ne sais pas lire une partition en raison de cette catastrophe scolaire dont je parlais tout à l'heure, mais j'entends très bien. Pour un opéra baroque, je pense qu'il manque quelque chose. C'est ce que j'aime dans la Norma, c'est ce que j'aime chez Wagner, c'est ce que j'aime chez Verdi ou Fidelio que j'ai mis en scène. Il y a tout un monde qui se transforme en musique. Cette dimension-là va manquer peut-être. Et c'est après que l'opéra se fait, ou ça donne comme résultat l'opéra. Pour l'opéra baroque, je ne suis pas... Ça ne me transporte pas autant que Fidelio.
Oui, je suppose parce que c'est trop codifié. C'est enfermé dans des codes, alors que les codes sont libérés dès le romantisme. Libération des codes, non?
J'aimerais bien écrire moi-même un opéra, mais je ne sais pas écrire une note.
Vous êtes un peu plus réservé, Emmanuel Krivine, sur l'opéra. Diriger un opéra, vous dites que c'est comme conduire Place de l'Étoile à 6h du soir. Vous avez eu des mots assez durs parfois. Vous lui reprochez notamment la façon dont la musique s'y incarne. Qu'est-ce qui résiste pour vous justement à cette forme-là, celle de l'opéra? Même si ça vous est arrivé, bien sûr, d'en diriger.
J'ai rien contre l'opéra, j'ai contre ce qu'on fait de l'opéra. À notre époque, où l'abstraction est en danger, l'abstraction est en réel danger. Je veux dire, qui écoutera les variations Goldberg dans 50 ans? Je ne sais pas, peut-être en Californie, je ne crois pas. Bref, je veux dire, l'opéra, on en fait maintenant un produit scopique, enfin, disons, anti-abstrait. Donc, c'est quelquefois, ça tombe dans la démagogie, mais ce n'est pas la faute de l'opéra, c'est la faute de comment on le commercialise, comment on l'appréhende, qu'est-ce qu'on en fait comme objet culturel ou aculturel. Mais l'opéra, évidemment, qu'il y a des merveilles. Simplement, ce qu'il faut aussi, c'est que les side effects, les effets pervers de ça, c'est que le metteur en scène, quelquefois, se mêle de musique. L'ego du chef se combat avec l'ego du metteur en scène et ça donne des trucs pas intéressants, quoi. Moi, c'est juste parce que j'aime être au service des choses. Alors évidemment, si je rencontre un metteur en scène avec qui il y a affinité, moi, je suis tout content et j'adore l'opéra. C'est simplement que ce n'est pas mon métier. Comme il disait tout à l'heure, Werner Herzog, avec beaucoup de modestie, je suis seulement un professionnel et pas un priest, un sacerdotal. Là, c'est la même chose. C'est professionnel, quoi. C'est tout. C'est tout. Ce n'est pas ma profession, voilà.
Je voudrais revenir sur une déclaration que vous aviez faite il y a quelques années, Emmanuel Krivine, à un journaliste qui disait de vous que vous aviez un style allemand dans la direction. Vous répondiez, c'était il y a 15 ans, « Mon style vient de mes origines. Je suis français de naissance et j'appréhende la musique par la rationalité. Mais je suis aussi juif d'origine russe, donc tzigane dans l'âme. Au final, qu'est-ce que cet attelage-là donne de la qualité ou dit de votre direction et de votre signature ?»
Mais c'était en ce temps-là, je pensais ça. Maintenant,
maintenant, vous avez changé.
Je crois vraiment qu'il ne faut pas être trop biographique dans ces histoires-là.
Qu'est-ce qui vous gêne,
que je sois juif ou pas juif, ou français. Non, ce qui est intéressant, c'est comment on s'est constitué. Comment s'est constitué votre idiosyncrasie, quoi. Comment on s'est constitué. Par exemple, je serais né à Brooklyn, par exemple, et je serais un admirateur de Heifetz. Bon, le même juif ici n'est pas né à Brooklyn et j'étais un admirateur de Fischer-Dieskau. Mais ce n'est pas un choix culturel, c'était par affinité. Affinité, je ne sais pas pourquoi. Donc ça ne veut pas dire que je n'aime pas Heifetz. Ça veut dire que Fischer-Dieskau, ça m'intéresse plus. Mais ce n'est pas lié à des éléments biographiques. C'est un choix culturel probablement dû à un background que j'ignore. Mes parents fréquentaient beaucoup la littérature. Mon père était premier prix concours général d'allemand. Il parlait tout le temps de Hölderlin, de Novalis, de Klopstock. Il y avait tous des jésuites à la maison qui passaient pour parler de la Bible. Il y avait Albert Lévinas. Tous ces gens-là, mes parents avaient hébergé René Char pendant la guerre. Enfin, c'était toute une culture qui a donné à la suite Vatican II. Mes parents, c'était des gens qui étaient liés à la revue Esprit. Mmh. Donc, ça a donné Vatican II. Donc, on est dans un autre Stimmung qu'un juif qui est né à Brooklyn et qui fait carrière à Miami, par exemple.
Sur le son.
Alors, comme à tous nos invités, Emmanuel Krivine, on vous a demandé d'apporter un son et vous avez choisi celui-ci.
Certains ours, montagnards, ou à demi léchés. Confiné par le sort dans un bois solitaire, nouveau Bellérophon vivait seul et caché. Il fut devenu fou. La raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Il est bon de parler, meilleur de se taire, mais tous deux sont mauvais alors qu'ils sont outrés. Nul animal n'avait affaire dans les lieux que l'ours habitait. Si bien que tout ours qu'il était, il va à s'ennuyer de cette triste vie.
On l'a tous reconnu, mais identification de ce son est la raison pour laquelle vous l'avez choisi, Emmanuel Krivine ?
Parce que pour moi, La Fontaine, c'est comme Mozart, quoi. C'est des types, c'est infini. Alors, c'est du
mais
Mozart.
Mais La Fontaine par Lucchini.
Oui, Lucchini. J'aime bien comme il dit. Le personnage, je ne comprends pas bien Lucchini, mais je trouve qu'il sait réciter, il sait, comme on dit dans le canton de Vaud, je partirai pas en vacances avec lui. Mais je trouve qu'il sait très bien phraser, justement, phraser. Et comment il met les scansions, comme dirait Lacan. Et tout ça, et comment il phrase, comment il fait les périodes, comment il lit. Comment je trouve qu'il faut dire la musique, c'est-à-dire ni de gauche ni de droite. Mais comme ça, on lit la musique gauche-droite en même temps. C'est comme ça qu'on sait où va un crescendo, par exemple. Si on lit vers la droite, de la droite, on sait où va votre crescendo, ou votre diminuendo, etc. Alors, c'est intéressant de voir ce temps elliptique, comment il voit le phrasé dans le temps elliptique.
Un des caméramans, un Américain, m'a demandé « On fait quoi si ça explose pendant le tournage ?» Et je lui ai dit de manière assez laconique
Eh bien, Edouard, nous partirons en l'air.
Ils jouent aux échecs avec la mort, mais c'est une façon de vivre.
Merci à nos invités. Werner Herzog, La Soufrière et Kacher Broom, La Montagne Lumineuse, sort en salle le 3 décembre prochain, même jour pour la parution du volume 1 de l'intégrale de vos films sous le label Potemkin. Et je signale votre rétrospective aux Grand Action à Paris et à l'Université de Strasbourg. Emmanuel Krivine, La Chambre Philharmonique se produira le 28 novembre prochain à la Cité de la Musique à Paris, le 30 à l'Opéra de Lyon. Et puis toutes les dates de la tournée Schumann, Dvorak, Brahms sont disponibles sur le site de l'émission. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain. C'est la teuf demain, manifestement. Demain, French Touch et Mur de Berlin avec la réalisatrice Mensen Love et le critique David Sanson. Là, des annonces, Hippolyte.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Lucille Como, Manu Farine, Aïssatou Endoy et Hippolyte Babilote, Journal de la Culture, Zoé Sfez, Chronique Vanity, Anne Boulet, à la prise de son, Alex Dang et Dofar Guérid, à la réalisation, Thomas Beau et à l'interprétation, Florence Roucou.
C'est encore à vous.
Vous pouvez réécouter, podcaster et commenter l'émission sur le site franceculture.fr et rejoindre la grande famille du rendez-vous sur les réseaux sociaux avec le hashtag RDV.
Il est 19h54, vous écoutez France Culture, c'est bien ?